Octogone, votre nouveau rendez-vous sur la hip-hop Soul Radio. Tous les dimanches avec Lamal à partir de 20h.
Et aujourd'hui, nous sommes avec la grande, ouais, j'ai bien dit, la grande Assa Traoré. C'est important. Assa Traoré, depuis pas mal de temps, elle consacre sa vie à un combat qui est très honorable. Et franchement, ça me fait plaisir de la recevoir dans l'émission du jour Octogone. Comment tu vas, Assa?
Ça va, je vais bien. Merci de nous recevoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation, ça fait plaisir. À ça, on va rentrer déjà un peu, on va parler de l'émission. T'es venu déjà accompagné aussi, oui. Faut le dire, c'est important. T'es venu avec Dooms?
C'est ça.
C'est ça. Dooms, t'es du quartier d'Assa?
Exactement, c'est ça.
C'est important. À ça, déjà, moi, j'ai envie de savoir, avant de rentrer dans le vif du sujet, ton parcours. Qui est Assa Traoré? Comment elle a grandi? Et pourquoi après ce combat?
Waouh, mon parcours. J'ai un parcours assez simple et assez classique. Hein. J'ai un parcours, j'arrive très tôt à Beaumont-sur-Oise. Mon père était chef dans le bâtiment. Donc, il a eu un gros chantier. Donc, on quitte Bobigny. J'arrive là-bas, j'ai 3 ans. Donc, je grandis dans ce quartier, dans cette ville à Beaumont-sur-Oise. Beaumont, c'est la forêt, c'est les champs. L'été, tu peux cueillir des noisettes, des cerises. Vraiment, on a grandi dans cet environnement-là. Et on va grandir en famille. Ce qui est important, ce que je tiens à souligner, ce qui est fort, c'est la famille Traoré. Comment mon père va nous élever? Moi, j'ai des grands frères et sœurs. Quand mon père va arriver en France, il va épouser Françoise, Elisabeth. J'ai 5 grands frères et sœurs qui viennent nous voir pendant les vacances. Moi, par exemple, j'ai fait toutes mes vacances de vacances à Bordeaux. Je ne les faisais même pas à Paris. J'étais sur Bordeaux. Chez l'ex-femme de mon père. Donc il y a la famille,
une grande famille.
Donc une famille soudée. Très très soudée. Ensuite parcours classique, hein, à l'école en CM2, je décide de devenir éducatrice parce que ma prof madame Dumais avait invité fait intervenir des éducateurs PJJ. Et là j'ai dit waouh, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'accompagner des jeunes à réussir en tout cas dans leur parcours. Et c'est ce que je vais faire. Je vais intégrer l'école du social plus tard, après le lycée, à Parmentier. Et je vais devenir éducatrice en prévention spécialisée à Sarcelles, à l'OPEJ, pendant 13 ans, jusqu'à la mort de mon frère. Quand mon frère va mourir, je pars de mon travail, je quitte la Croatie parce que j'ai été en déplacement professionnel. Le 17, le dimanche, quoi, je dépose mes enfants à Beaumont, chez ma mère. J'avais vu tous mes petits frères sauf Adama. Et aux alentours de 17h, j'appelle Adama. Je lui dis, mais Adama, t'es où? J'ai vu tout le monde sauf toi. Je voyage, je voulais te dire au revoir. Je vais te faire un bisou avant de partir. Il m'a dit, ah ça, je suis déjà parti à Paris. Est-ce que tu veux que je revienne? Je lui dis, non, je vais juste en voyage professionnel. Je reviens la semaine prochaine. Je prends l'avion le 18. Le 19, mon frère meurt. Le 20, je suis à Paris. Et je ne suis plus jamais retourné travailler. C'était la dernière fois. Et depuis 6 ans, ça va faire 6 ans le 19 juillet 2022, le jour de l'anniversaire de mon frère, le jour de ses 24 ans, le jour où il va mourir, bah, que je me consacre que à ça, que à la manifestation de la vérité et de la justice au nom de mon petit frère, pour son nom, pour son honneur, pour sa dignité. Et aujourd'hui, c'est un combat qui appartient à la France entière et qui traverse même
les frontières.
Les frontières.
Pourquoi tu as décidé de ne plus retourner au travail?
J'avais un choix à faire. Déjà, quand mon frère va mourir, ça c'est important, c'est quelque chose qui va être en moi tout de suite. Quand mon frère va mourir, mon frère meurt en plein milieu de l'été, c'est le 19 juillet, et je me dis, waouh, faut pas qu'on oublie mon frère en septembre. Pour moi, c'était... Ça allait être très dur pour moi, c'était ma hantise de me dire qu'en septembre, tout le monde allait reprendre ses activités, tout le monde allait rentrer à l'école et que mon frère serait juste un fait divers de l'été. Et ça, ça ne pouvait pas être supportable pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup hanté, en tout cas dès les premiers instants et jusque tout l'été, parce que je ne voulais pas qu'en septembre, on oublie mon frère. Donc tout de suite, en Croatie, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler des journalistes. En disant on a tué mon frère, les gendarmes ont tué mon frère à Beaumont-sur-Oise. Et quand j'arrive à Beaumont, déjà les révoltes avaient déjà commencé dans notre quartier. Et pour moi, c'était inconcevable qu'on puisse oublier le nom de mon frère en septembre. Donc, c'était important de me battre que le nom de mon frère puisse rester. Déjà, c'était la motivation, une des premières motivations qu'Adama ne soit pas juste un fait divers dans un journal. Et...
Excuse-moi de te couper. Tu disais que vous avez une grande famille. Vous êtes 17, c'est ça?
Oui.
17. Pourquoi c'est toi qui est plus en avant que les autres et c'est toi qui as décidé de mener ce combat?
J'étais la plus grande à la maison. Mes grands frères sont beaucoup plus grands que nous, avaient déjà pris leur indépendance, vivent entre Bordeaux et l'Espagne. Et j'étais la plus grande à la maison. C'est moi qui ai grandi avec mes petits frères. Et quand mon père va mourir d'un cancer des poumons en 99, j'ai 14 ans. Adama, ils ont à peine 3 ans, 4 ans. Mes petits frères sont tout petits. Donc quand je pars, je suis la plus grande de la maison. Je grandis avec eux. Je m'occupe de mes petits frères. J'essaie de veiller sur eux du mieux que je peux. Et donc, ça s'est fait assez naturellement. C'est que, après, bon, il y a aussi, je pense, mon tempérament, mon caractère, qui fait que c'était pas possible, en fait.
Une guerrière.
Je me définis pas comme une guerrière. Mmh. C'est juste, on a tué mon frère et on pouvait pas laisser ça. Comme ça, sans qu'il se passe rien. Et pour moi, c'était pas possible. J'aurais pas pu me regarder dans une glace ou continuer le cours de ma vie. Et ça va être porté avec ma famille, hein. Ça va être porté avec tout le monde tout de suite. Mais c'est moi qui vais prendre cette voie. C'est moi qui vais prendre la parole avec le soutien de tout le monde. Mais ça se fait très naturellement. On désigne pas quelqu'un. J'y vais, c'est tout.
T'es venu avec Dooms. Dooms, c'est toi aussi qui a commencé à faire. Un peu entendre cette histoire.
Quand tu dis moi, ça fait gros. En vrai, il n'y a pas que moi. Il y a nous, il y a Assa, il y a ceux qui soutiennent le combat. Parce qu'en vrai, c'est l'union qui fait la force. Sans les personnes qui soutiennent, en vrai, de vrai, ou sans Assa, il n'y aurait pas eu tout cet engouement-là. C'est vrai que moi, quand j'ai appris la mort d'Adama, malheureusement, j'étais enfermé, j'étais en prison. Et moi, j'ai appris la mort, déjà, on m'a appelé, je me rappelle, j'étais parti à la douche. Et quand je suis revenu, j'ai vu des appels en absence sur mon téléphone. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai que des appels. J'ai vu ma sœur, elle m'avait appelé. Le petit frère de Assa, il m'avait appelé aussi. Je me suis dit, c'est bizarre, il y a un truc qui ne va pas, il y a d'autres numéros qui m'avaient appelé. Du coup, j'ai appelé ma sœur en première, je l'ai appelé. Elle m'a dit, ils ont tué Adama. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Comment ça, ils ont tué Adama? Et ça a raccroché. Du coup, je l'ai rappelé. Elle m'a dit, ouais, bah, je sais pas, on sait pas encore, on est devant le commissariat, mais ils ont tué Adama. Du coup, on a raccroché. Du coup, le frère d'Assa, il m'a rappelé encore. Il était en pleurs aussi. Il parlait, je comprenais même pas ce qu'il me disait. C'est là que moi, j'ai réalisé qu'Adama, il était parti, quoi. Et moi, carrément, quand j'étais là-bas, j'arrivais même pas à réaliser mon code détenu me parler. Je n'entendais même pas ce qu'il me disait. J'arrivais même pas à comprendre ce qu'il me disait. Tellement j'étais encore sous le choc. Parce que moi, avant qu'il y ait eu cette bavure policière, moi, Adama, je l'ai eu 2 jours avant au téléphone. Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, ouais, quand tu sors, on se verra et tout ça. Et nanana. Et si tu as besoin d'un truc, bah, tu m'appelles et moi, je t'envoie. Et moi, je suis resté sur. Je suis resté sur ça en vrai. Je me dis que la dernière fois que j'ai entendu Adama, c'est quand j'étais là-bas, quoi. Et il m'a appelé, il m'a dit, si t'as besoin, bah, je suis là. Et 2 jours après, j'apprends cette triste nouvelle. Après, le lendemain, j'ai vu BFM, etc.
Toi, tu l'as appris, t'étais en prison.
C'est ça.
C'est terrible parce qu'en plus, tu pouvais rien faire.
C'est exactement
ça. C'est-à-dire que t'étais enfermé et que tu étais là et que tu pouvais vraiment rien faire.
C'est une frustration, c'est un truc de ouf. Je sais même pas comment te l'expliquer, en fait. Tu veux extérioriser, mais tu peux pas, en fait, parce que t'es déjà enfermé. Du coup, c'est une double peine, en vrai, de vrai.
Quand t'apprends que c'est en plus une bavure policière et que toi, t'es en prison.
Ouais.
Donc, prison, policier, bon, on connaît le truc. T'as deux fois plus la rage encore contre les keufs. Tu te dis, c'est vraiment des petits fils de pute, ceux-là.
Après, en vrai, c'est même pas de leur faute que malheureusement j'ai été incarcéré.
Oui, bien sûr.
Mais je fais un petit lien quand même. Je me dis ouais, voilà quoi. Je fais un petit lien quand même. Je me dis, en fait, on n'est rien. On peut partir à tout moment. La vie, elle tient rien du tout, en vrai, de vrai, tu vois.
Et toi, ça, comment tu l'as appris, la nouvelle, ton frère est décédé? Comment tu l'apprends?
Alors, nous, j'étais parti avec des jeunes adultes, 16-17 ans, on était parti en Croatie. Et on sort du restaurant, on m'appelle. On me dit, Adama, il a fait un malaise. Et moi, j'ai perdu ma cousine 6 mois avant d'une rupture d'anévrisme et de cérébrale. Et j'ai eu peur. Je me suis dit, l'histoire se répète. Et j'ai eu peur. Donc, je suis resté figé. On me rappelle 5 minutes après. Et on me dit, non, t'inquiète pas, Adama, il est en garde à vue, il va bien. L'histoire, c'est que quand mon frère va mourir, les gendarmes, ils ne vont pas prévenir ma famille. Par contre, quelqu'un va venir prévenir mon frère en disant, il se passe quelque chose avec ton frère, allez voir s'il n'est pas à l'hôpital. Mon frère et ma mère vont tout de suite aller à l'hôpital. Il n'y a pas d'Adama, mon frère Samba va appeler tous les hôpitaux des alentours, il n'y a pas Adama. Il va rappeler les pompiers et les pompiers vont le basculer automatiquement vers la gendarmerie. Et là, ma mère, elle dit, c'est pas normal, il faut aller devant la gendarmerie. Donc, ils vont à la gendarmerie, Tata, qui est la maman d'Adama, qu'on appelle Tata. Tata va sonner à la gendarmerie, il est aux alentours de 21h. Et elle va dire, j'ai entendu dire que mon fils était en garde à vue, qu'il avait fait un malaise. On lui dit, non, madame, votre fils va très bien, il est en bonne santé. Elle va lui dire, est-ce que vous appelez un avocat? On va lui dire, non, madame, si Adama a besoin d'un avocat, nous appellerons un avocat. Et elle va dire cette phrase qui va prendre sens aujourd'hui. S'il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous. Donc, c'est suite à ça que moi, on m'appelle en me disant, t'inquiète pas, il est en garde à vue. Alors que mon frère, il était 21h, mon frère était déjà mort depuis plusieurs heures déjà. Sauf qu'ils cachent la vérité à ma famille et font croire qu'Adama est vivant alors qu'il est mort. Donc, mais sauf que ce jour-là, les habitants de Beaumont, Persan, Bruyères, toutes les villes aux alentours, parce que chez nous c'est très petit, mais tout le monde se connaît, tout le monde ils vont tous venir devant la cour devant la gendarmerie et ils vont dire on veut voir Adama. Et là, un gradé va faire entrer mon frère Yacouba et Tata. Et là, on va leur dire en plein milieu de la cour est-ce que si on vous dit quelque chose, vous avez pas mal le prendre? Bien évidemment, ils vont dire non parce qu'on pense pas à la mort, pas une seule seconde. Ouais. Et là, on va dire qu'Adama est mort. Ma mère va se jeter par terre, mon frère va crier, ils vont les sortir, ils vont gazer toutes les personnes qu'il y a dehors. Et ça, c'est aux alentours de 23h. Donc, ils sont dans une volonté déjà, dans un premier temps, de mentir, parce qu'ils cachent la mort de mon petit frère pendant plusieurs heures. Et ils disent qu'il est vivant et qu'il est en garde à vue. Et ils vont même jusqu'à aller prendre 3 sandwichs, un pour Adama, un pour mon frère et un pour l'ami de mon frère. Et ils vont les accepter. Ils vont faire comme si qu'il était vivant.
Pourquoi ils ont caché la mort de ton frère ?
Je pense que ce jour-là, ils étaient. On peut supposer plein de choses, mais si on prend la supposition la plus logique, je pense qu'ils étaient en train de préparer ce qu'ils allaient dire ou dissimuler des preuves. Sauf que ça s'est pas fait comme ça parce que la ville, le quartier s'est levé tout de suite. Et de toute façon, ils ont menti. Hein. Il y a une volonté de mentir. Aujourd'hui, on a 6 ans du combat. Si on les avait écoutés dans les premiers instants, c'est ce qu'ils vont dire. D'abord, c'est qu'Adama est mort de cause cardiaque et d'infection très grave. On va dire que c'est faux. Mon frère était en excellente santé. Ensuite, ils vont dire qu'il est mort sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Et on va dire que c'est faux, mon frère n'avait pas consommé. Cette première expertise va sortir. On a le procureur qui va mentir. On va demander une deuxième expertise. Et pour pas qu'on demande cette deuxième expertise, 3 jours après la mort de mon frère, on va nous convoquer à la préfecture de Cergy-Pontoise en nous disant que nous savons que vous êtes de confession musulmane et que dans la religion musulmane, vous enterrez vos morts dans les 3 jours. Nous avons contacté la compagnie Air France et l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qu'une femme est là au bout de table, que toutes les personnes souhaitant un passeport leur sera remis sur tout de suite pour accompagner le corps dès demain. Et on va leur dire non, qu'Adama il est aussi français et qu'il sera peut-être enterré en France. Et en fait, c'était pour pas qu'on puisse faire cette contre-expertise. Et cette contre-expertise va sortir et elle va dire qu'Adama n'est pas mort de cause cardiaque, ni d'infection très grave, ni sous l'emprise de l'alcool, ni de la drogue. On va faire virer le procureur, il va être muté. On va faire dépayser l'affaire qui va arriver à Paris, mais on va prendre le meilleur avocat aussi. Il n'est pas là aujourd'hui, mais on va prendre Yacine Bouzrou qui va faire un excellent travail. Et le quartier va rester en révolte, en tout cas pendant plusieurs jours. Et voilà, donc si on les avait écoutés, ensuite il serait mort de drépanocytose, alors qu'il est même pas, on n'est pas drépanocytaire chez nous. Mais c'est une race raciste, hein, donc on va chercher des maladies d'ailleurs, des maladies d'exotiques qui touchent que des noirs, qui ne parlent pas à tout le monde. Et la dernière en date, on va dire qu'il est mort de chaleur. C'est suite à ça qu'on sort dans la rue le 2 juin, où on est plus de 100 000. On va faire annuler cette expertise. L'expertise va aller, va la faire annuler. Et aucun expert ne veut prendre l'affaire Adama Traoré parce qu'on porte plainte contre tous les experts parce qu'ils mentent. Et la France, la justice française va demander aux experts belges de faire une expertise. Et donc ça sera en septembre 2020. Et en parallèle, nous, on va prendre l'expert de George Floyd, un expert brésilien, italien, 4 français. On aura un collège d'experts de 9 experts qui va faire une expertise indépendante que nous avons financée nous-mêmes et qui va sortir en même temps que celle des Belges en janvier 2021, qui vont dire que les gendarmes sont responsables de la mort de Adama. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022. La justice n'a toujours pas mis en examen les gendarmes. Elle n'a pas trouvé mieux à faire que d'aller chercher un arrêt maladie de mon frère de 2014, 2 ans avant sa mort, en demandant aux experts, est-ce qu'avec cet arrêt maladie, vous changerez d'avis sur la culpabilité des gendarmes? Aujourd'hui, l'expertise n'est toujours pas rentrée. Nous, on pense que l'arrêt maladie est un arrêt maladie bidon. L'expertise n'est toujours pas là. Et on apprend, donc elle devait rentrer en août 2021. En septembre 2021, le chef qui avait signé en disant que Adama était bien mort suite à l'interpellation, on va apprendre que l'expert est mort. Donc elle dit, comme l'expert est mort, on fait une autre expertise. Cette expertise que nous attendons depuis, qui n'est toujours pas rentrée. Donc on est dans un déni de justice complet hein, dans l'affaire Adama Traoré. Et aujourd'hui...
Excuse-moi de te couper. Qu'est-ce que tu attends réellement? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires vraiment, réellement, toi?
Je pense que j'attends ce que tout le monde attend. Ce que tous les Français attendent. Ce que toutes les personnes qui sont aujourd'hui... derrière le combat vérité justice pour Adama, déjà la vérité on la connaît, on sait, nous savons que les gendarmes ont étouffé mon frère, nous savons que Adama a pris le poids de ces 3 gendarmes sur son corps, plus de 250 kilos, mon frère est mort exactement de la même façon que George Floyd, et ça c'est ce que je vous dis là, je n'invente pas, c'est ce que les gendarmes vont dire lors de leur première audition, ce ne sont pas mes mots, ils vont dire nous sommes montés à 3 sur lui, un au niveau des jambes, un au niveau du thorax, un au niveau du cou. Et Adama va leur dire, je n'arrive plus à respirer. La vérité, nous l'avons. Nous l'avons parce que les expertises ont parlé, les experts ont dit qu'ils étaient responsables. Maintenant, c'est la justice que nous voulons.
Faire condamner les policiers, enfin les gendarmes.
Bien sûr.
C'est important. Concrètement à ça, qu'est-ce que tu veux? Dis-nous.
Aujourd'hui, je veux la mise en examen des gendarmes. Je veux qu'on ait un procès public. Un procès public... que tous les Français puissent venir assister à ce procès et qu'ils puissent venir rendre des comptes de la façon dont ils ont tué mon petit frère. Et bien évidemment, c'est la condamnation des gendarmes. Parce que mon frère, ils ont tué mon petit frère. Ils ont tué mon frère le jour de ses 24 ans, le jour de son anniversaire. Mon frère, ce jour-là, il a mis une chemise à fleurs, un bermuda, un bob. Il voulait juste faire un tour de vélo. Il voulait juste faire un tour de vélo. Et pour l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, ils savent. Ils ne savent pas dans les détails. À 10h du matin, la mairie appelle chez nous pour qu'Adama puisse venir chercher sa pièce d'identité. Malheureusement, mon frère n'a pas eu le temps d'aller chercher sa pièce d'identité. Et aujourd'hui, cette pièce d'identité, c'est un bouclier pour les personnes de couleur, les personnes des quartiers. C'est-à-dire que cette pièce d'identité te protège. Et même pour l'histoire, c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous subissons a une conséquence directe avec l'histoire de France, avec l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation. Le premier document officiel a été créé pour l'esclave noir. Quand un esclave noir sortait dans la rue, on avait le droit de l'abattre. Adama Traoré sortit dans la rue sans sa pièce d'identité, on l'a abattu, comme tant d'autres. Et la Cour européenne a condamné la France pour contrôle au faciès. Et ça, c'est important que de le savoir, parce qu'on a l'impression que certains peuvent dire qu'on en fait peut-être trop, ou peut-être qu'on exagère, mais on a tué mon petit frère. Et quand la Cour européenne condamne la France pour contrôle au faciès, ce n'est pas Assa Traoré ou le comité Adama, c'est la Cour européenne.
Comment vous pouvez dire qu'on en fait trop? On est en France, soi-disant un pays où liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, égalité, et je m'arrête sur le point d'égalité. Quand un homme tue un autre homme, il est condamné. Pourquoi, quand c'est les gendarmes ou la police, je dis la police, pour moi ça englobe la gendarme aussi, la gendarmerie aussi, mais bon, on est obligé de dire gendarme, police, parce que sinon ils vont dire non, c'est pas des policiers, c'est des gendarmes et vice versa. Bref, quand ces personnes-là nous tuent, ils sont pas condamnés. Quand ces personnes-là nous enlèvent la vie, enlèvent la vie de nos petits frères, enlèvent la vie de nos enfants, ils sont pas condamnés. Comme là, il y a eu un décès d'une petite, ils ont fait 3 jours de garde à vue, 2 jours de garde à vue, ils sont sortis, ils ont pas été condamnés. Si demain c'est nous qui enlevons la vie à une personne, minimum 96 heures de garde à vue, prison, pendant des années et des années, tu ne nous revois plus, merci, au revoir. Ce qu'on demande, c'est simple en fait. C'est l'égalité pour tout le monde. Tu as tué une personne, eh ben tu vas assumer. Tu dois payer et tu dois répondre de tes actes. C'est aussi simple que ça en vrai. On n'en fait pas trop. C'est normal de demander la condamnation de ces 3 prisonniers qui sont des meurtriers. C'est un lapsus, tu vois. Ces 3 gendarmes qui sont des meurtriers. Voilà. C'est important de le dire et voilà. Parce qu'il y a beaucoup... Pourquoi un peu je m'excite ? Parce que il y a beaucoup de gens qui disent Assa Traoré attise la haine, elle veut un conflit entre la police et autres. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça ? T'es trop agressive, on dit... Une lionne, en gros.
J'ai juste envie de leur dire qu'on a tué mon petit frère. Ouais. On a tué mon petit frère. Aujourd'hui, je suis la voix vivante de mon frère. Nous sommes les voix vivantes d'Adama. Mon frère, aujourd'hui, ne peut pas sortir et se défendre. Aujourd'hui, je me battrai, on se battra jusqu'au bout, ne serait-ce que pour l'honneur et la dignité de mon frère. Ouais. On se battra pour lui, pour la justice. Et on en fera... C'est pas une question... c'est une personne de couleur qui va dans un combat... On dit qu'elle attise la haine et que c'est de la colère. Quand c'est une personne blanche qui va parler de l'écologie ou qui va faire des actions, on va dire, on va utiliser autre chose. On a tué mon petit frère. Aujourd'hui, si c'était de la haine, j'ai envie de rappeler à ces gens, ne réunit pas plus de 100 000 personnes devant le tribunal de Paris. Et aujourd'hui, ce sont les Français, c'est le peuple français qui sort dans la rue. Derrière, avec, à côté du comité Adama. Pour réclamer la vérité, la justice pour Adama. On avait tous les mêmes mots à la bouche. Parce que quand on se bat pour Adama, on se bat pour tous les Adama Traoré. Mon frère ne reviendra plus, par contre. Comme je dis, si mon frère aurait pu ressusciter, il aurait ressuscité 1 milliard de fois. Mais mon frère ne reviendra plus. Par contre, avec le nom de mon petit frère, si on peut changer une société, renverser ce système, bien sûr et bien évidemment, on le fera. Et ce jour-là, nous étions plus de 100 000 dans la rue. Tous avec les mêmes mots, contre l'injustice, contre la discrimination, contre les violences policières, contre le racisme. Et tous, et c'était pas que des personnes des quartiers, que des personnes de couleur, c'était tout le monde. On avait des personnes des quartiers populaires, des centres-villes, on avait des plus jeunes, on avait des moins jeunes, on avait des beaucoup plus vieux, on avait de toutes les couleurs, de toute appartenance. Tout le monde était là ce jour-là avec le même ordre. Et en fait, ça c'est pas la haine et la colère qui l'attisent, mais c'est un combat loyal, un combat juste, un combat parce que quand on dit qu'on veut vivre dans un pays de liberté et avec un pays sans injustice, bon, on peut pas le faire seul, on doit le faire ensemble. Et une semaine après, c'était il y a quelques jours, le 13 juin, on est sur la place de la République, on a encore plus de 120 000. Et ça, c'est le peuple français qui est là. Donc moi, je réponds à ces personnes... J'ai même rien à répondre à ces personnes. C'est de dire, regardez aujourd'hui, quand on sort dans la rue, quand nous sommes sortis dans la rue, aujourd'hui, ce sont des dates qui sont marquées à jamais dans l'histoire de France.
Tout et simplement aussi, perdre un proche, perdre un petit frère, perdre une personne qui nous est chère, on ne sait pas comment on va réagir. Donc déjà, au lieu de parler, dire voilà, c'est trop agressif, c'est trop ceci, c'est trop cela, il faut vivre le moment, il faut vivre l'instant pour comprendre. Vous ne comprenez pas, restez chez vous tranquillement.
Et j'ai même envie de dire que je ne souhaite même pas. Aujourd'hui, quand on se bat pour Adama, on souhaite que personne ne puisse vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que ce qu'on vit, c'est pas juste un combat. C'est toutes les fenêtres cassées qu'il y a autour, c'est tous mes frères en prison, c'est toutes les condamnations que j'ai, les mises en examen que j'ai, partir au combat. Et ça, moi, je le souhaite à personne. Par contre, le combat, quand on y va, on y va ensemble.
Et pour les autres aussi. Parce qu'en faisant ça pour ton frère,
c'est
de
pour
base,
tout le monde.
C'est pour tout le monde, pour toutes les bavures policières.
Aujourd'hui,
pour la justice, tout simplement.
On a fait en sorte que la question des violences policières soit mise au plus haut. Et comme j'ai dit, Adama ne reviendra plus. Par contre, nous sommes là. Et on se bat, en tout cas, pour dire que nous avons le droit de participer à la construction du pays dans lequel on vit. Nous avons le droit de participer à la construction de ce monde. et nous avons surtout le droit de participer à la construction de notre propre vie. Et ça, personne n'a de droit de mort sur nos vies, sur la vie de qui que ce soit. Et on ne peut pas le faire et personne ne doit rester spectateur de ça. Tout le monde est acteur à sa façon, de loin comme de près. Aujourd'hui, nous sommes là à Génération. Vous êtes aussi acteur de ce combat.
C'est important. C'est important. C'est important, tu sais pourquoi ? Je ne vais pas te mentir. S'il n'y avait pas eu la mal à Génération, je ne sais pas si Assa Traoré serait là aussi à Génération. Parce que moi, je suis un mec vraiment du peuple et d'en bas. Tu vois ce que je te disais, tu me parlais de ton frère, la police, là, il parlait de la prison tout à l'heure, Dooms. J'ai fait 4 ans de prison. On connaît. On vient d'en bas, on vient des milieux, mais on est des bonnes personnes. Et moi, ce qui me rend ouf, tu sais, un jour, je me suis fait contrôler par la police et justement, bah, je parle de ton frère. On a amené à parler de ton frère, hein, parce que voilà, je me fais contrôler par la police et moi, bon, j'aime bien parler un peu. Je suis animateur radio, j'ai souvent des débats parce qu'il y a toujours un keuf qui casse les couilles, tu vois. Donc voilà, je suis obligé de les mettre au parfum. De toute façon, c'est toujours pareil, etc. Ah bon, pourquoi vous dites ça, nanani, nanana. Donc, on dérive sur l'histoire de ton frère. Et je leur dis, mais la position que vous avez, vous savez la différence entre vous et nous, c'est quoi? C'est que nous, on sait reconnaître. Si moi, demain, mon frère était là, c'est une balance, je le frappe avec vous. C'est une balance, on va le frapper. Mais vous, le problème, c'est quand vous, vos collègues font de la merde, vous étiez même pas sur place, vous étiez même pas là, vous les défendez corps et âme. Et c'est pour ça qu'après, ça attise la guerre dans les quartiers parce qu'on se dit tous, les keufs, ils sont pareils. Parce que si tu défends un mec qui a tué une autre personne et que tu dis, ah non, et tu me cherches une histoire. Ouais, mais il était connu des services de police. Et alors? Et alors? Pourquoi tu me parles de mon passé? L'autre fois, je me fais contrôler, on me dit, ouais, vous êtes connu des services de police? Je lui dis, et alors? Demande-moi ce que je fais maintenant, pourquoi tu me parles d'avant? Et il est là le problème.
Le problème, il est là et c'est surtout qu'aujourd'hui, la peine de mort, elle a été abolie.
Exactement.
Et en fait, la peine de mort, elle a été abolie. Et ces phrases-là et ces comportements-là, en fait, c'est comme si on rétablissait la peine de mort et qu'ils avaient un droit de mort sur nos vies.
Exactement.
Et en fait, aujourd'hui, aucun acte ne justifie la mort de qui que ce soit. Je suis désolé, aujourd'hui, nous avons eu des personnes à la tête de ce pays qui ont été en prison. Il n'y a pas longtemps, qui était à la prison de la santé, Guéant.
En tout cas.
Non, mais c'est important de le dire.
Exactement.
C'est que quand on va les chercher chez eux, on leur met pas une balle dans la tête. Mmh. Quand on va les chercher chez eux, on leur fait pas un plaquage ventral. Quand on va les chercher chez eux, on leur met pas une balle dans le dos.
C'est vrai.
Quand on va.
Mélenchon, ils ont fait perquisition chez lui aussi, à son bureau, tout ça là.
Non, mais c'est
ils l'ont pas, ils lui ont pas sauté dessus. Hein.
C'est pour dire que aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont condamnées et on les tue pas. Donc cette volonté, elle est réelle, cette volonté, elle est là. Et en fait, c'est ça qu'il faut dénoncer. Ils n'ont pas de droit de mort et quand on se bat pour ne pas rétablir la peine de mort. Parce qu'aujourd'hui, quand on a des individus, on a des policiers qui portent l'uniforme, qui sont censés être gardiens de la paix, parce qu'aujourd'hui, on dit policiers, mais attention, ils sont dénommés en tant que gardiens de la paix. Ils sont censés représenter la paix et représenter la sécurité. Juste pour la
petite histoire. Garder la paix.
Et de garder la paix. Et on doit leur faire confiance. On ne devrait même pas avoir peur d'eux aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons peur d'eux. Quand on prend la voiture et qu'on n'a rien fait, on a ce sentiment-là, dès qu'on les voit, d'un sentiment de peur. Et ce qui n'est pas normal. Et aujourd'hui, quand on a Zied et Bouna qui vont courir, qui sont des enfants et qui vont mourir, ce sont des enfants qui ont peur de la police. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se construit de plus en plus. Le 2 juin, quand nous sommes devant le tribunal de Clichy, quand nous avons le ministre de l'Intérieur qui va dire « Nous allons penser à interdire ces techniques d'immobilisation qui emmènent à la mort comme la clé d'étranglement ou le plaquage ventral », nous avons les policiers qui vont aller manifester dans la rue et poser leurs menottes pour continuer à les utiliser. C'est grave. Quand George Floyd va mourir, quand le monde entier se met en question, bah, le seul pays où les policiers vont aller manifester pour pouvoir continuer à utiliser ces méthodes-là, c'est en France. Et ça, c'est incroyable. Là, en France, donc, je leur dis, mais regardez la police française. Un autre exemple, à Stein, il y a eu la fresque de George Floyd et Adama qui a été peinte sur un mur. Et nous avons les syndicats de police, Alliance, qui va faire un appel sur les réseaux sociaux. Attendez bien, c'est la police qui fait un appel sur les réseaux sociaux en disant nous allons aller effacer la fresque de Adama et de George Floyd. Ça veut dire que même nos frères, quand ils sont morts, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas droit d'exister en peinture à leurs yeux. Bah, je vais faire pareil, je vais prendre mon téléphone, je vais faire une vidéo et je vais faire un appel et je vais leur dire, on va se donner rendez-vous là-bas. Parce que pour moi, ce ne sont pas des policiers, ce sont des délinquants, ce sont des comportements de voyous en disant qu'on va faire ça. Et ce jour-là, nous avons été, c'est un rendez-vous qu'ils avaient donné, nous avons été à leur rendez-vous et ils ne sont pas venus. Nous avons gagné.
Tu fais bien de le dire, c'est important de le préciser. Parce que tout de même, il y a quand même des policiers qui sont bons. Et j'en connais. Ah, t'as du mal à...
Moi, je suis pas d'accord.
T'as entendu
Non, mais bien évidemment...
Moi, j'en connais. Non. J'en connais personnellement. Et c'est une minorité. Généralement, on parle en majorité, donc ouais. Mais j'en connais. Et moi-même, ça me choque. Je me dis, qu'est-ce que tu fais dans ce métier-là, vu que t'es comme moi, tu réfléchis comme moi. Tu vois, à force de parler avec les gens. Donc, cette minorité-là, je l'exclus parce qu'il y en a à qui j'ai parlé qui sont un peu comme moi. Chose que je ne pensais pas.
Oui, mais en fait, c'est trop.
Mais moi, je veux pas mettre tout le monde dans le même sac à ça, tu sais pourquoi? Parce que si je mets tout le monde dans le même sac, c'est faire comme eux, en fait. Mettre tout le monde dans le même sac, parce qu'eux, ils nous mettent pareil, tout le monde dans le même sac.
Je vais te dire un truc beaucoup plus simple. Je vais m'aller dans tout le monde. C'est qu'en fait, c'est un cercle vicieux. On peut se battre contre l'injustice, contre le racisme, contre les violences policières. En fait, mais si eux, de l'intérieur,
ils n'éradiquent pas le problème, ils ne font pas le travail nécessaire.
En fait, on tourne en rond. Et en fait, bien évidemment, on peut trouver du bon en tout le monde. C'est facile de le dire. Mais moi, je vais juste te prendre un exemple simple et concret. Mon frère va mourir dans une caserne de gendarmerie. On parle d'une caserne de gendarmerie. Il n'y a pas que 3 gendarmes dans cette gendarmerie. Donc, où sont ces bons gendarmes? Où sont ces gendarmes qui se disent bons? Aujourd'hui, ça fait 6 ans. Personne, aucun de ces gendarmes n'a porté secours à mon petit frère. Aucun de ces gendarmes n'est venu dénoncer le comportement de leurs collègues. Bien au contraire, ils se sont protégés entre eux. Au moment du procès de mon frère Bagui qui fait 5 ans de prison parce que c'est le témoin principal de Adama, 92 gendarmes, donc ce sont des gendarmes de la caserne de chez nous, qui viennent porter plainte contre mon frère. C'est-à-dire que 5 ans après, 4 ans après, ils sont encore dans ça. Donc oui, moi, je veux bien l'entendre, cette phrase, qu'il y a des bons policiers ou des bons gendarmes. Mais quand Adama meurt, il ne meurt pas dans la rue, il meurt dans une caserne de gendarmerie. Et dans une caserne de gendarmerie, il n'y a pas que 3 gendarmes. Et aujourd'hui, j'aurais aimé que ces gendarmes, ces bons gendarmes, comme tu le dis, viennent dénoncer ce comportement-là. Et là, je peux dire qu'oui, il y a du changement. Mais aujourd'hui, ça fait 6 ans, et ils ne sont toujours pas là. Et au contraire, ils sont encore plus forts, main dans la main.
T'as jamais eu un policier ou un gendarme qui est venu te voir ou qui t'a parlé et qui t'a dit « Moi, je suis avec toi », etc.
Oui, il y en a eu.
Il y en a eu.
Il faut le dire publiquement.
Ils n'ont rien fait. Ouais, voilà, c'est ça.
En fait, comme je t'ai dit, on peut prendre des personnes
ouais, ils t'ont pris à part, ils t'ont dit « Je suis avec toi », mais publiquement, ils ne l'ont jamais...
Il y a pas longtemps, on a tué une gamine d'une balle dans la tête, on tue les frères Camara, on tue Gaï Camara d'une balle dans la tête, on tue... Léo, mais là je te donne que les derniers en date. Donc ça veut dire que aujourd'hui on a besoin, on ne veut plus qu'il y ait de mort. L'impunité policière doit cesser et ça c'est important.
Ah ça, je t'ai posé une question tout à l'heure. Quelle est la solution pour toi d'arrêter? Non, qu'est-ce qu'il faut pour arrêter les bavures policières?
Déjà, on va juste rétablir chaque mot de l'importance. Et les mots ont des sens et ont un sens et surtout un poids. Ce ne sont pas des bavures.
Oh, c'est-à-dire?
Ces bavures, c'est comme s'ils n'avaient pas fait exprès. Ce sont des violences policières qui emmènent à la mort.
J'avais pas vu le truc comme ça. Mais c'est vrai qu'en le disant, on dit bavure policière, c'est une chose que tu fais sans faire exprès. Mais en vrai, t'es en train de dire que voilà, généralement, la plupart du temps, ils font exprès. Parce que c'est vrai, quand ils tirent en l'air, en haut, enfin... à hauteur d'homme, comme on dit, c'est qu'on veut enlever la vie. Donc, c'est plus une bavure, peut-être, c'est une envie.
Bah, quand mon frère, il porte le poids de leur corps sur son corps et qu'il leur dit « j'arrive plus à respirer ».
Si tu t'arrêtes pas, c'est que
si tu t'arrêtes pas, c'est qu'il y a une volonté de tuer. Et quand tu passes devant l'hôpital et que tu l'emmènes pas, c'est qu'il y a une volonté de tuer. Et quand tu l'emmènes dans la cour de gendarmerie et qu'il a les menottes dans le dos, ventre contre le sol, et qu'on lui enlève pas les menottes, ça veut dire qu'on lui a même pas fait le massage cardiaque, qu'il y a une volonté de tuer. Quand les pompiers arrivent dans cette cour de gendarmerie et que les pompiers vont demander aux gendarmes de retirer les menottes et vont dire non, il simule, c'est une volonté de tuer. Et que les pompiers vont dire non, c'est un jeune homme de 24 ans, il faut lui retirer les menottes. Sauf que c'était trop tard. C'est pas une bavure.
Je reformule ma question, tu m'as séduit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour toi pour arrêter les violences volontaires et les meurtres, on va dire, volontaires sur les gens?
Déjà, il faut réformer la police. Il faut la réformer complètement.
C'est-à-dire
aujourd'hui, nous avons une police qui est basée sur des fondements qui sont complètement racistes. Quand on entend des propos des policiers qui sortent dans les médias, quand nous avons même des témoignages d'anciens policiers qui sortent de la police, ce sont que des propos racistes.
Je te coupe deux secondes, parce que tu as dit un truc magique. Un jour, j'étais avec un ami à moi, on avait une conversation, et on parlait des skins. Tu vois, des skinheads à l'époque, tout ça là, qui étaient racistes. Je leur disais, mais les Black Dragons, tout ça, ils ont chassé les skins. Franchement, c'est vrai qu'on les voit plus, les skins. Comment ils ont pu éradiquer cette race-là? Tu sais qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, mais mon gars, ils les ont pas éradiqués. Ils sont dans la police maintenant.
Effectivement. Et c'est surtout.
Excuse-moi de t'avoir coupé.
Et c'est important à chaque fois de rappeler l'histoire. Hein. Mmh. Elle a été construite sur la colonisation française. Mmh. Et en fait, c'est ça. Et aujourd'hui, la différence entre la France et entre les États-Unis et la France, c'est que les États-Unis avancent en même temps que la construction de son pays. Donc, elle change les mentalités en avançant. La France pense être déjà sur ses acquis, à son histoire, et n'est pas dans une évolution et reste sur ça. Et aujourd'hui, nous, on prend ce contre-coup-là. Et cette police, il faut bien évidemment la réformer et casser toute cette mentalité qu'on peut avoir et ces comportements. Et je le redis, la Cour européenne a condamné la France pour le contrôle au faciès. Ce n'est pas Assa Traoré, ce n'est pas le comité Adama, ce n'est pas toi. Ça veut dire qu'il y a un problème qui est profond. Et aujourd'hui, ce qu'il faut surtout, c'est que quand un policier commet un crime, c'est qu'il soit puni. L'impunité policière donne de la force et banalise des morts, banalise des meurtres. Ça veut dire que bah, demain, on peut tuer une autre personne, on peut faire un autre crime parce qu'ils ne vont pas en prison, parce qu'ils ne sont pas condamnés. Et ça, il faut faire corps contre ça. C'est pour ça que quand les familles font des appels, font des marches, il faut être massif, il faut y aller, il faut qu'on soit nombreux. Bah, quand on est dans la rue, ce 2 juin et ce 13 juin, ça leur fait peur. Ça leur fait peur parce que là, ils disent là, le peuple s'est levé et le peuple, aujourd'hui, peut changer quelque chose. Et ça, c'est important. On ne peut pas laisser faire ça, bien évidemment. Il faut que les impunités policières soient punies.
Dooms.
Ouais.
Toi, comment, d'un œil extérieur, on va dire, parce que voilà, c'était ton ami, mais comment tu vis tout ça?
Franchement, ça, c'est un truc que... Enfin, comme on dit, le temps, ça ne soigne pas les blessures. En vrai de vrai. Parce qu'à chaque année, enfin, je me rappelle l'année dernière quand ça faisait 5 ans, on se disait déjà, on se regardait, on se disait, mais ça fait déjà 5 ans. Mmh. Et il y a 4 ans, on se regardait encore, on se disait, ça fait déjà 4 ans. Et là, on arrive à la 6e année, quand on va arriver et tout ça, on va se regarder, on va se dire, ça fait 6 ans déjà. Et on dirait que c'était hier. Ouais. On dirait que c'était hier, en vrai de vrai.
Il a fait une chanson aussi pour mon frère.
Ouais, exactement.
Lui, il y a Sai Sai aussi. Il a fait une chanson, je suis Adama et Dooms, juste après.
Quand tu vois ces choses-là qui sont faites pour ta famille, pour ton frère, comment tu le ressens, toi?
J'ai pas de mots. Si je pourrais jamais leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Jamais. Et que ce soit à ma famille ou à Adama, aujourd'hui, ce combat, s'il est encore là, ce combat, s'il est encore fort, ce combat, s'il perdure, c'est parce que ce combat, il a été porté par les gens de chez nous, par notre quartier. C'est un combat qui a été construit localement. Quand on fait des marches, quand on fait des événements, elles sont organisées par eux. Et ils sont là, partout, quand je les appelle. Quand il y a quelque chose, ils sont là. C'est leur combat. Et Adama, c'est leur frère. Et c'est avec beaucoup d'émotion. Hein. Mais ce combat, il n'aurait pas été ce qu'il est s'ils n'avaient pas été là, eux, aujourd'hui. Et ça, j'ai même pas de mots, je sais même pas comment je pourrais les remercier. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils sont cette force puissante du combat. Et je suis fier de dire qu'aujourd'hui, il y a Dooms, il y a tant d'autres, il y en a plein qui sont là et qui portent le combat. Et partout où je vais à droite, ils sont là. Je vais à gauche, ils sont là. Je vais devant, ils sont là. Je vais derrière, ils sont là. Ils sont là à chaque fois. Et aujourd'hui, à eux se sont ajoutés tous ces Français. Tous les quartiers, tous les Français qui sont là dans le combat. Et, parce qu'en fait, aujourd'hui, le combat, il a dépassé hein, la famille Traoré. J'ai été...
C'est ce que j'allais te poser comme question. J'allais te dire, est-ce que si les gendarmes étaient amenés à être condamnés, tu continuerais le combat?
Juste avant de répondre à cette question, l'année dernière, j'ai été mise en examen parce que j'ai dit dans la lettre j'accuse que les gendarmes étaient responsables de la mort de mon petit frère. J'ai eu 2 jours de procès face aux avocats qui ont tué mon petit frère. J'ai gagné le procès. Et les motivations des juges étaient de dire que j'avais le droit de donner le nom parce que le combat Adama avait dépassé la famille Traoré, était devenu une cause d'une société civile. Donc aujourd'hui, ce combat, il appartient à tout le monde. Et répondre à ta question, moi, on s'est lancé dans un chemin. C'est un chemin qui est droit. C'est d'abord la mise en examen, la condamnation. Et après, on verra ce qui va se passer. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand mon frère va mourir, quand j'ai dit que le nom d'Adama... on met en examen aussi pour cette phrase. Hein, parce que j'ai dit, les gendarmes t'ont tué, mais ne tueront pas ton nom, Adama. Bah, en fait, bien évidemment, le combat ne s'arrêtera jamais. Parce que ce combat a dépassé les frontières. J'étais aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Et sur l'avenue, il y a le nom de Adama Traoré parmi tant d'autres noms. Et bien évidemment, ce combat ne s'arrêtera jamais. Parce que c'est ton combat, c'est le combat de tout le monde. C'est-à-dire que même si demain, moi, je ne suis pas là, on se doit, tout le monde se doit de continuer le combat. Au même titre que les anciens ont combattu pour nous, pour que nous, on soit là, aujourd'hui, en tant qu'hommes, en tant que femmes, en tant que personnes de couleur, pour continuer le combat. Donc, bien évidemment, le combat va continuer. Il restera parce que je ferai en sorte que mon frère continue à grandir dans l'histoire de ce pays.
Tu as déjà reçu des menaces de mort ?
Oui, j'ai reçu des menaces de mort, des menaces de viol sur ma personne. Le Valeur Actuelle avait mis mon adresse personnelle sur les réseaux sociaux, bien évidemment.
Le journal ?
Ah oui.
Mais non.
Ah oui.
Et pourquoi ?
Ah, en fait, c'est qu'aujourd'hui, quand je demande la vérité et la justice pour mon petit frère, c'est comme si que moi je commettais un crime, comme si que j'avais pas le droit, comme si que c'était interdit. Mais en fait, on leur fait juste peur. Et aujourd'hui, il y a une...
Mais Valeur Actuelle, c'est un média ?
Pour moi, c'est pas un média.
De base, non, si on... De base, c'est un média, c'est un journal qui est là et qui parle de tout et de rien, ok.
Non.
Et pourquoi ?
Non. C'est un torchon raciste. Hein,
ok, je connais pas, je dis pas moi.
De propos racistes, hein, okay.
Ok, ouais, mais c'est un média de base quand même. Donc, à la base des bases, ça doit être un média. Donc, il doit pas mettre les adresses des gens dans son média.
Bah, c'est une volonté de mettre.
De tenir.
De mettre ma vie en danger et celle de ma famille.
C'est terrible ça.
Bah aujourd'hui, quand on veut, quand une personne nuit, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on fait tout pour l'embêter. Mais ils me font pas peur.
C'est un truc de ouf quand même. Le monde dans lequel on vit est vraiment terrible en vrai. Bah on demande justice. C'est normal, on a le droit de demander justice. Et au final, on veut nous faire des problèmes à nous parce que tu disais que tu étais mise en examen plusieurs fois. Tu étais mise en examen ?
Oui.
Pour quelle raison ? Juste parce que tu as...
Parce que j'ai écrit, donc j'ai repris un grand classique français hein, d'Émile Zola, qui a écrit la lettre J'accuse. Donc je reprends cette lettre et je l'approprie. Et je mets toutes les personnes qui sont entravées à la manifestation de la vérité. Et je dis dans cette lettre que j'accuse les gendarmes d'avoir tué mon petit frère. Donc ils vont porter plainte contre moi. Donc on va aller en procès. Donc c'est incroyable. Donc on tue mon petit frère. 4 ans après, c'est moi, c'est la famille qui se retrouve sur le banc des accusés face aux gendarmes qui ont tué mon petit frère. Donc c'est quand même incroyable. Mais je vais gagner parce qu'on a fait une mobilisation ce jour-là encore devant le tribunal. Et en fait, le combat n'est que dans la vérité. On ne demande rien d'autre. On demande juste la vérité et la justice. Et aujourd'hui, c'est de l'intimidation quand ils font ça. J'ai mis en examen aussi parce que j'ai dit cette phrase... Les gendarmes t'ont tué, mais ne tueront pas ton nom, Adama. Et parce qu'ils ne veulent pas que je donne leur nom. Et je continuerai jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on arrive au bout de ce combat. Mais c'est de l'intimidation, c'est pour faire peur. Mais aujourd'hui, le combat, il continue. C'est pour ça qu'il faut être nombreux encore et encore et encore et encore. Il ne faut pas lâcher, il faut qu'on soit nombreux.
Le 2 juillet, la marche pour Adama Traoré sera organisée à Beaumont-sur-Oise. Voilà. Il faut venir, il faut être soudé. Unis, comme il l'a dit Dom tout à l'heure, l'union fait la force, et sur mon drapeau, parce que je suis haïtien, donc c'est pour ça que ça m'a touché, et je le dis souvent, l'union fait la force, l'UFF, voilà. Est-ce que pour vous, dernière question, bon, on va peut-être un peu s'attarder un peu, mais est-ce que pour vous, est-ce que la justice est toujours juste ? Mais si, je pense que j'ai déjà la réponse.
Vas-y Dom, si tu peux dire un mot, je finirai.
Franchement, je sais pas. Je sais pas comment. Je sais pas quoi te répondre à cette question.
Moi, j'ai envie de dire que si j'avais fait. Je vais pas dire si la justice, elle est juste ou pas. Mais juste dire si j'avais fait confiance en la justice, bah, mon frère serait mort de cause cardiaque. Mon frère serait mort d'infection très grave. Mon frère serait mort sous l'emprise de l'alcool. Mon frère serait mort sous l'emprise de la drogue. Mon frère serait mort de trépanocytose. Et mon frère serait mort de chaleur.
Et t'imagines, on se serait arrêté là. Ça veut dire la France, c'est ce qu'ils auraient cru.
Voilà. Donc si on avait fait confiance en la justice, c'est comme ça qu'il faut la poser. Et c'est pour ça qu'on porte plainte à chaque fois contre les experts, parce qu'ils mentent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 8 juges. La semaine dernière, nous étions encore au tribunal. On a bloqué le tribunal. Donc aujourd'hui, voilà, c'est si on avait fait confiance en la justice. C'était si, c'est ça qui est grave. Et heureusement que nous avons pris le chemin de la vérité, nous.
Tu as soulevé un bon point, c'est vrai, hein, Dooms en plus. Parce qu'il y a combien eu de... Je ne vais pas dire bavure, sinon à ça, elle va me dire que ce n'est pas bavure policière.
C'est violence policière.
Combien de violences policières il y a eu et en vrai, ils ont bah, peut-être même menti dans les analyses. Là. Comment on dit dans les
expertises.
Dans les expertises. Et les familles les ont cru.
Bah, nous avons des experts qui sont des charlatans. Mmh. Nous, on porte plainte, on les attaque. Et nous avons les juges qui se cachent derrière les expertises. Donc, c'est très dangereux. C'est un système qui est bien ficelé. On fait des expertises. Les juges disent on a lu les expertises. Dans l'affaire Adama Traoré, il y a 11 expertises. 11 expertises, on fait des expertises nous indépendantes que nous payons nous-mêmes. Et ce qui est important, c'est que les gens sachent, c'est que la justice paye tout pour les gendarmes, tout, exactement tout. Nous, on doit tout financer nous-mêmes. Dans ce combat, l'argent est le nerf de la guerre parce que sans argent, on ne peut pas avancer. On ne peut pas payer les expertises, on ne peut pas payer tous les frais qu'il y a derrière. Donc ça, ils l'ont compris aussi. C'est comme ça qu'ils épuisent psychologiquement et moralement et financièrement des familles. C'est que les gendarmes, eux, sont coupables, mais sont pris en charge par les familles, par l'État. Par contre, nous sommes des victimes, mais c'est comme si on devait se préparer aujourd'hui, éventuellement, à mettre une épargne au cas où si on tuait un des membres de nos familles pour pouvoir avancer, alors que non.
Qu'est-ce qu'il dit Macron là-dessus?
Ah, Macron a une réponse chez Bouscapé. Uh-huh. Et il a dit il veut la justice dans cette affaire. Ce sont ses mots. Donc,
J'ai pas regardé, excusez-moi, j'ai pas regardé le truc chez Bouscapé qu'il a fait.
Ce sont ses mots après.
Il a dit je réclame la justice.
Après.
Le président de la République ans. A dit je réclame la justice.
En tout cas, il a dit qu'il a parlé de la marche du 2 juin, parce que je pense que c'est quelque chose qui les a un peu marqués. Uh-huh. Et qu'effectivement. Il faut qu'il y ait la manifestation de la vérité et la justice dans l'affaire Adama Traoré. En tout cas, il le dit dans ce média. Il le dit. Ce sont ses mots.
Il t'a jamais contacté? T'as jamais de...
Aujourd'hui, ils nous ont contactés après la marche du 2 juillet, 4 ans après. Ah. Aujourd'hui, en vérité, les personnes qu'il faut convoquer, ce n'est pas nous. Ce sont les gendarmes pour les mettre en examen et qu'on ait un procès. C'est ça, aujourd'hui on veut que c'est ce qu'on veut. On veut pas autre chose.
C'est un truc de ouf quand même. Un président qui dit il faut la justice, c'est lui le représentant de la justice, il me semble, non? Peut-être que je me trompe, je sais pas.
En tout cas, nous, on continue notre chemin. On change pas de route.
C'est important, faut rester.
On change pas de route et on y va.
Merci Dooms, merci en tout cas à Satraoré d'être venu dans l'octogone. Ça fait plaisir, on le rappelle. Une marche pour Adama Traoré est organisée le 2 juillet à Beaumont-sur-Oise. C'est important, il faut venir soutenir. L'union fait la force, comme l'a dit Dooms. Je le souligne et j'appuie parce que c'est très important. Et c'est pas qu'un seul combat, c'est pas que le combat d'Assa Traoré, mais c'est le combat de plusieurs milliers, voire millions de personnes qui dépassent les frontières et c'est pas que en France. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation.
Génération Hip Hop Soul Radio.